C'est un grand vertige aujourd'hui dans La Tête au Carré avec un plongeon dans l'histoire du vide. Cette notion de vide dans l'espace n'a cessé de hanter l'humanité depuis la nuit des temps. L'astrophysicien Trinh Sen Tuan s'en est emparé pour en explorer toutes les facettes et toutes les échelles, depuis les Grecs jusqu'à la spiritualité, en passant par le zéro et l'atome. Il est mon invité dans un instant et il répondra en direct à toutes vos questions. À la une de la science aujourd'hui, la forte diminution du volume des glaciers dans l'archipel des Kerguelen en Antarctique. On en connaît mieux les raisons grâce à une étude qui vient de paraître et on en parle avec l'un de ses auteurs dans un instant. Et puis comme tous les mardis, nous retrouverons la chronique de science improbable de Pierre Barthélémy en partenariat avec le cahier Science et Médecine du Monde, chronique consacrée aujourd'hui à Superman. Stéphanie Texier réalise cette Tête au Carré préparée par Chantal Le Montagnier avec Mahmoud Mebarek.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
La nature a horreur du vide, mais pas l'astrophysicien Trinh Sen Tuan qui lui consacre donc un ouvrage, La plénitude du vide, chez Albin Michel. Bonjour à vous.
Bonjour.
Trinh Sen Tuan, est-ce que ça existe, le vide absolu dans la nature?
Non, parce que le vide est plein, justement, et le vide n'est pas néant. Et donc, en fait, le vide est fécond et il est à l'origine de tout.
Et vous dites que la matière dont nous sommes faits est aussi presque du vide?
Tout à fait, parce que le noyau où toute la masse est concentrée, c'est seulement un 100 000ème de la taille de l'atome. C'est comme donc une bille d'un centimètre dans un stade d'un kilomètre.
Et on va faire avec vous donc le vide en parlant du souffle vital, hein, Trinh Sen Tuan. On se retrouve dans un instant avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Et à la une de la science aujourd'hui, les glaciers des Kerguelen menacés par la sécheresse.
Le recul de la calotte glaciaire, l'un des plus rapides au monde, c'est un effet visible des changements climatiques. Depuis une dizaine d'années, le climat des Kerguelen est marqué par des sécheresses estivales récurrentes et un vent qui se renforce encore.
Et les glaciers situés en bordure des régions de climat polaire sont extrêmement sensibles au changement climatique. Et dans une étude qui vient de paraître dans la revue Scientific Reports, une équipe de chercheurs a montré que la sécheresse donc était la principale cause du retrait des glaciers de l'archipel des Kerguelen. Bonjour Vincent Favier.
Bonjour.
Vous êtes en ligne avec nous, vous êtes physicien adjoint au laboratoire de glaciologie et géophysique de l'environnement à Grenoble et vous êtes le premier auteur de cette étude. Alors là, vous avez travaillé sur le plus gros glacier français, la calotte de Cook, c'est son nom, il se situe dans la zone antarctique. Quelle est sa taille à peu près?
Alors c'est en gros 500 km², c'est deux fois plus gros que la surface des glaciers sur le territoire national dans les Alpes françaises.
Et donc vous observez un véritable recul aujourd'hui sur ce glacier?
Alors, on a effectué des travaux à partir de données de terrain et puis à partir de données satellitales. Et lorsqu'on regarde les volumes perdus sur la calotte Cook, ça fait partie des records du monde de pertes à l'échelle planétaire.
C'est-à-dire?
Donc, on perd en gros une épaisseur de 1,60 m par an de glace. C'est-à-dire que sur 500 km², on perd une moyenne de la taille d'un homme, à peu près.
Ouais, et cette diminution, elle a commencé quand, à peu près? On arrive à le savoir?
Donc on a fait des études et on a retrouvé en fait les extensions passées grâce à des travaux antérieurs qui nous montraient que vers 1850, les extensions étaient relativement similaires à ce qu'on avait jusqu'en 1960. Et à partir de là, le recul a commencé et s'est très fortement accéléré au cours des 25 dernières années.
Donc c'est 18% de la taille totale, je crois, de ce glacier qui a reculé depuis les années 60. C'est absolument colossal pour la taille d'un tel glacier.
Alors c'est colossal et c'est d'autant plus impressionnant quand on regarde en perte de volume. Pour vous donner un ordre d'idée, la première fois où je suis arrivé sur le glacier, en 2010, on montait sur le glacier à un endroit et deux ans plus tard, il fallait descendre 30 mètres de plus pour pouvoir arriver sur le glacier, ce qui est vraiment considérable. C'est la première fois que je voyais des pertes aussi énormes.
Vous observez une accélération aussi de ce phénomène ?
Alors on observe une accélération très forte depuis 1975 qui est liée justement à l'accroissement de cette sécheresse. Donc il faut voir que la perte de précipitations sur ce secteur est de l'ordre de... Enfin on a divisé par deux les précipitations sur l'archipel. Si c'était le cas en France, je pense que les agriculteurs ne seraient pas très heureux.
Alors Vincent Favier, dans cette étude, donc vous annoncez que la cause principale du recul, ça n'est pas le réchauffement climatique comme on pourrait s'y attendre, mais la sécheresse. Comment est-ce qu'on parvient à cette conclusion exactement? Parce que c'est complexe à étudier.
Alors on a utilisé des modèles glaciologiques et on a profité du fait que sur place il y a un effort très important qui est fait par la France et par l'IPEV pour pouvoir avoir une base sur place. Donc on avait des données météorologiques depuis 1950.
C'est l'Institut Paul-Émile Victor, c'est ça qui vous a permis d'avoir ces relevés?
Oui, c'est ça, oui. Et puis Météo France qui a sa station météorologique depuis 1950 sur ce secteur. Donc ça nous a permis d'alimenter un modèle glaciologique et qui nous a permis de reconstituer les pertes de masse sur les 50 dernières années. Et on constate que les trois quarts de la perte sont dues à la sécheresse et que cette perte a été accélérée par le réchauffement qui est quand même notable sur ce secteur.
Donc c'est la glace qui vous permet d'enregistrer les variations du climat ?
Ah là oui, là c'est vraiment la glace qui nous permet... Il y avait déjà des études faites sur la végétation qui montraient qu'il y avait une sécheresse, mais on ne pensait pas qu'elle était aussi majeure. Et là, on s'aperçoit vraiment que les conséquences sont dramatiques dans ce secteur.
Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement pour que la sécheresse soit plus importante ces dernières décennies sur cette zone ?
Alors, il faut savoir qu'on se trouve dans un secteur où les dépressions ont tendance à passer en permanence, qu'on appelle le rail des dépressions. Mmh. Et avec le réchauffement climatique, on a tendance à augmenter les températures aux moyennes et aux basses latitudes, c'est-à-dire entre Kerguelen et l'équateur, alors que du côté du pôle sud, en Antarctique, le trou d'ozone a créé un refroidissement, ce qui fait qu'on a... augmenter le gradient de température, et le problème c'est que dans l'atmosphère, qui dit changement de température dit changement de pression, ce qui fait qu'on a changé aussi les lieux de forte pression et de faible pression, ce qui a déplacé vers le sud en fait les dépressions. Et donc les dépressions ne passent plus sur Kerguelen et viennent flirter avec l'Antarctique maintenant. Ouais.
Donc ce sont toute la dynamique au fond qui a été modifiée ces dernières années.
Oui, mais c'est ça qui est fondamental, c'est qu'on entend toujours parler de réchauffement climatique, alors qu'il faut bien dire aux gens que le changement climatique, ce ne sont pas que des changements de température, il y a aussi des problèmes de circulation atmosphérique qui vont s'opérer, et donc des diminutions de précipitations qui s'opéreront dans certaines régions.
La responsabilité, la part de responsabilité justement de la sécheresse par rapport au réchauffement climatique sur ce phénomène de recul des glaciers, on arrive à l'évaluer, Vincent Favier, à peu près ou pas ?
Alors à Kerguelen, là, c'est les trois quarts.
Les trois quarts sont liés à la sécheresse.
Oui, c'est ça.
Et donc le réchauffement climatique, indirectement, joue un rôle quand même sur ce phénomène.
Donc il joue directement pour un quart, et indirectement, il joue clairement sur le déplacement en fait, des fronts, enfin, le déplacement des dépressions beaucoup plus au sud. Mais le trou d'ozone est pour l'instant le facteur prédominant. Mais dans le futur, le trou d'ozone va se résorber. Par contre, l'augmentation du réchauffement climatique fait que ce phénomène devrait se poursuivre et que les dépressions devraient continuer de circuler au sud de Kerguelen.
Ouais. Qu'est-ce que ces observations vous apportent sur votre compréhension justement du climat ?
Ouais, elle nous apporte déjà beaucoup parce que on a tendance toujours à penser lorsqu'on fait des prévisions d'évolution future des glaciers, on travaille avec des modèles qui reproduisent très bien la température mais assez mal les changements de précipitation à des échelles assez fines. Et là ça nous montre vraiment qu'il y a de fortes incertitudes dans ces régions-là où les changements de circulation s'opèrent et s'opéreront dans le futur. Donc ça nous donne vraiment une idée des incertitudes sur l'évolution des glaciers.
Est-ce que ça remet en cause aussi la façon dont on travaille sur les modèles de déplacement de la masse d'air par exemple ?
Ça ne les remet pas en question. Par contre, ça demande aux chercheurs et aux modélisateurs de travailler beaucoup plus sur la finesse des processus. On arrive à peu près à reproduire ces processus, mais on ne les place pas vraiment au bon endroit et pas avec l'intensité suffisante. Donc ça demande encore du travail pour améliorer la finesse de nos modèles.
Vincent Favier, vous faites des projections également sur l'avenir pour imaginer la vitesse et l'avenir de ce glacier ?
Alors on a fait des projections et on utilise justement les simulations actuelles, et les simulations actuelles montrent déjà que le glacier devrait disparaître, sans prendre en considération les défauts qu'ont les modèles sur la perte de précipitation dans ce secteur-là. Et donc a priori, sur les 2-3 prochains siècles, la calotte devrait disparaître, puisque on pense qu'en plus des changements de température, les précipitations devraient rester faibles.
Quelles pourraient être les conséquences de la disparition de la calotte glaciaire justement dans cette zone du monde ?
Alors cette zone, ça reste quand même dérisoire. Par contre, il faut bien s'apercevoir que le changement de circulation atmosphérique affecte maintenant certainement l'Antarctique, mais en sens inverse. C'est-à-dire que maintenant, les dépressions sont en train de taper sur la calotte, et on devrait avoir une augmentation des précipitations sur la calotte. Ce qui serait donc un transfert d'eau depuis les océans sur la calotte, et ce qui serait une bonne nouvelle pour l'augmentation du niveau des mers. Le problème, c'est que pour l'instant, on n'observe rien en Antarctique. Le problème, c'est que l'Antarctique, c'est très vaste, et qu'on a très peu de données sur ce continent, et c'est pour ça que l'année prochaine, on partira faire une traverse scientifique en Antarctique pour aller étudier une zone inexplorée et sur une très grande distance, puisqu'on va faire à peu près 1600 km de terrain inexploré pour évaluer si le changement climatique a déjà un impact ou pas sur l'augmentation des précipitations en Antarctique ou pas.
Ouais, et j'imagine que vous allez vous confronter à des températures extrêmes là où vous irez ?
Alors, extrême, peut-être pas. Ça sera en gros de l'ordre de moins 20, moins 25 degrés. Par contre, on va se trouver dans une zone où il y aura énormément de vent.
Et oui.
on est sur la zone côtière, donc c'est le vent katabatique, le fameux vent katabatique, et qui nous oblige donc à travailler dans des conditions un peu particulières, avec une caravane, enfin avec des caravanes, des équipements pour se protéger, et puis bien entendu, là encore, l'IPEV et tous mes partenaires, donc le LSCE, le Legos, etc., sont fondamentaux pour pouvoir arriver à faire ces travaux dans de bonnes conditions. C'est vraiment un travail d'équipe.
Merci beaucoup Vincent Favier pour vos explications donc à l'occasion de cette publication dans la revue Scientific Report donc sur le recul de la glace dans cette zone des îles Kerguelen. Merci beaucoup d'être passé à la Une de la Science aujourd'hui. À bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Je vous remercie. Au revoir.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, Mars comme si vous y étiez, le robot Curiosity qui vient de livrer une nouvelle moisson de clichés en haute définition et en couleur de la région de Murray Butters au pied du Mont Sharp. Ces images rappellent le Grand Canyon ou le désert de l'Arizona et leur étude a permis de mieux comprendre la formation de ces dunes de sable composées de vestiges érodés de roches sableuses et de grès. Curiosity va maintenant partir vers le sud pour poursuivre l'ascension du Mont Sharp à la recherche de roches formées en présence d'eau liquide. Vous pouvez voir ces photos qui tournent beaucoup sur les réseaux sociaux, sur le Facebook de la Tête au Carré. La Lune serait-elle à l'origine de certains séismes? Selon une nouvelle étude publiée dans Nature Géosciences, une fraction des tremblements de terre les plus meurtriers se produisent pendant les périodes de pleine et de nouvelle Lune. C'est pendant ces périodes que la Terre, la Lune et le Soleil sont alignés, augmentant la force des marées terrestres et donc la pression sur les failles géologiques. Pour les chercheurs, les grands tremblements de terre, comme ceux qui ont dévasté le Chili en 2010 ou le Japon en 2011, se produiraient donc davantage pendant ces périodes, même si ce phénomène est loin d'être le déclencheur de telles catastrophes. Et puis c'en est fini de la règle des 5 secondes, ce laps de temps court qui est réputé pour ne pas laisser le temps aux bactéries de contaminer un aliment lorsqu'il tombe par terre. Et bien une étude menée à l'université Rutgers aux États-Unis et publiée dans la revue Applied and Environmental Microbiology risque de contredire cette croyance populaire. Des échantillons de pain, de bonbons et de melons ont été laissés en contact durant des temps différents avec diverses surfaces et ont ensuite été examinés. Et le verdict est sans appel, dès la première seconde, les bactéries débutent leur colonisation. Et plus le temps passe, plus celle-ci est grande. Allez, dans un instant, plongeons dans le grand vide cosmique avec Trinh Sen Tuan. Nouveau monde, Octave Noir.
La tête au carré, l'actualité des sciences sur France Inter.
La plénitude du vide, c'est cet ouvrage que vous publiez donc chez Albin Michel, Trinh San Tuan. Vous êtes notre invité dans La tête au carré. Vous êtes astrophysicien, professeur d'astronomie à l'université de Charlottesville en Virginie. Et les questions des auditeurs arrivent déjà nombreuses sur franceinter.fr et sur le mot-clé, l'attaque, le vide intrigue, hein, visiblement. Okay. Alors, vous dédiez votre livre à tous ceux qui sont à la recherche du vide fécond. Oui. Qu'est-ce que c'est pour vous, le vide fécond?
Bon, d'abord... le vide en soi, parce que je pense que ça apporte la sérénité et le fécond, parce que le vide aussi n'est pas vide quand on le pense, et c'est pas le néant, mais il est à l'origine de tout, la matrice de tout. C'est à l'origine de notre univers, de toute la matière, parce que c'est un vide rempli d'énergie qui a été responsable de notre univers. Et l'énergie étant égale à la matière, ça c'est Einstein. Donc c'est elle a la cause de toute matière. Et puis donc elle est aussi responsable du Big Bang. Vous voyez ce qu'on appelle la période inflationnaire du début de l'univers. Il y a une grande expansion en 10 puissance moins 32 secondes. Qu'on appelle la période inflationnaire. Et donc ça, c'est une force répulsive qui, on pense, part d'un vide aussi. Et puis maintenant, vous voyez, maintenant que l'univers est en expansion, que l'espace se dilue constamment, on s'est aperçu en 1998 aussi que cette expansion ne se décélère pas, mais en fait, est en train d'accélérer. Et donc, il faut une force qui est non attractive, qui est une force antigravité qui repousse, et on pense que ça vient du vide aussi.
Ouais, alors là, on est dans la cosmologie, mais au fond, dans ce titre, la plénitude de vide, c'est l'aspect spirituel aussi que vous mettez en avant.
Oui, hein. oui, bien sûr, parce que, vous savez, le vide a été conçu comme toujours plein, en fait, en Occident. En fait, la fameuse formule d'Aristote, la nature
horreur du vide,
a duré quelques 20 siècles, a influencé toute la science et même stoppé, moi je dirais, la science occidentale pendant 20 siècles. Et en fait, c'était l'attitude opposée en Orient. Ils embrassaient le vide, et c'est pourquoi d'ailleurs, le zéro n'a pas été inventé par le grec, qui était très très en avance dans les mathématiques, mais par les Indiens, finalement, au 5e siècle. Parce que de nouveau, vous voyez, les Grecs pensaient que le zéro était une quantité très très bizarre. Vous voyez, vous ajoutez zéro lui-même, vous obtenez toujours zéro. Vous ajoutez zéro à un chiffre, vous obtenez le chiffre, mais il n'augmente pas. Et puis, il est lié à l'infini aussi. Vous voyez, vous prenez un chiffre, vous divisez par zéro, vous obtenez l'infini. Vous prenez un chiffre, vous divisez par l'infini, vous obtenez zéro. Donc, c'est comme le yin et le yang. Et donc, les Grecs avaient peur aussi de l'infini. Et donc, ils avaient peur aussi du zéro. Ils avaient rejeté ça. Tandis que, en Orient, le zéro est toujours embrassé par les traditions taoïstes, d'abord, il y a quelques 2500 ans. Pour eux, le vide était la matrice de tout. En fait, un discours qui rejoint étonnamment en fait les découvertes scientifiques du XXe siècle.
Mais Trinh San Tuan, cette phrase d'Aristote, donc la nature a horreur du vide, elle est fausse à la lumière des connaissances qu'on a aujourd'hui justement de l'espace.
Non, en fait, elle n'est plus fausse maintenant à cause de la mécanique quantique. Parce que bon, il y a eu un va-et-vient énorme.
Parce que la nature adore le vide. Il y a beaucoup de vide quand même dans la nature.
Il y a beaucoup de vide. Et en fait, ce qui est faux, c'est que Aristote pensait que le vide ne pouvait pas du tout être fabriqué expérimentalement. Mmh. Et en fait, ça a été détruit par les travaux de Galilée et puis de Pascal en particulier, qui peuvent créer le vide. On peut créer des pompes, par exemple, des hémisphères, on fait des vides dans des hémisphères, et puis cette éruption a été faite par un Allemand, à Magdebourg d'ailleurs. Et puis, parce que le vide est à l'intérieur, et puis qu'il y a une pression énorme de l'atmosphère sur les sphères. Deux atolins de chevaux, de 8 chevaux chacun, ne peuvent pas retirer le vide. C'est seulement en introduisant dans l'air, et donc en égalisant les pressions à l'intérieur, à l'extérieur des sphères, qu'on peut les séparer. Ouais. Vous voyez, donc on peut faire expérimentalement du vide. Donc, de ce point de vue, Aristote s'est trompé. Mais il y a eu aussi. Donc, il a bien sûr rempli des quatre éléments comme l'air, la terre, l'eau et le feu. Et puis, d'un cinquième élément qu'on appelait quintessence et qu'on appelle éther. L'éther, et cet éther va revenir. Souvent dans les grandes théories scientifiques, en fait. Ouais. En particulier, par exemple, au XVIIe siècle, vous voyez Newton avec sa grande théorie, la gravitation universelle. Il a besoin d'un médium pour transmettre sa force de gravité, en fait. Mm-hmm. Donc, il le remplit d'éther, en fait. Donc, l'éther revient, vous voyez. Et puis, au XIXe siècle, c'est Maxwell et Faraday et Maxwell qui parlent des ondes électromagnétiques. Et eux aussi, ils pensent que les ondes électromagnétiques ont besoin d'un substrat pour se propager, comme les vagues ont besoin de l'eau pour se propager sur la surface de la mer. Et donc, ils font appel à l'éther. Et puis, à la fin du 19e siècle, bon, en science, il suffit pas d'affirmer, il faut démontrer, faire des expériences. Et donc, au 19e siècle, il y a deux Américains, Michelson et Morley, qui essaient de mesurer, donc, le mouvement de la Terre à travers cet éther, s'il existe vraiment. Il devrait exister ce qu'on appelle un vent d'éther. C'est comme si vous allez sur une bicyclette, vous voyez un vent d'air qui se frotte sur vos joues. Et finalement, on détecte pas du tout ce vent d'éther. Vous voyez, ce vent d'éther devrait se traduire par des variations de la vitesse et la lumière si on la mesure dans différentes directions. Et on découvre qu'il n'y a aucune variation de la vitesse et la lumière. La lumière se propage toujours à la même vitesse à 300 000 km par seconde.
Dans le vide.
Dans le vide. Voilà, c'est ça, exactement. Et donc, Einstein, donc, maintenant c'est Einstein, le génie qui vient en 1915, il dit, bon, puisqu'on ne détecte pas, on l'envoie aux oubliettes, et donc, il n'y a pas d'éther, il n'y a pas de repère absolu du mouvement, et donc, tout mouvement devient relatif maintenant.
Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a réussi à combattre cette notion d'éther, donc qu'elle a disparu avec Einstein.
Mais, bien sûr, l'histoire n'est pas finie, parce qu'il y a eu l'autre révolution scientifique du XXe siècle, qui est la mécanique quantique. Alors, dans la relativité qui décrit l'infiniment grand, l'espace est lisse, il n'y a pas du tout de fluctuation. Vous voyez, elle est calme, et tranquille, etc. Mais la mécanique quantique dit que si on va à des échelles très petites, disons de la longueur de Planck, 10 puissance moins 33 cm, hein, très très petit, le chiffre arrive après 33 zéros.
Ça fait beaucoup de décimales,
Oui, c'est ça. Il y a des fluctuations, le temps, l'espace n'ont même plus de signification, on a une sorte de... L'espace est dissous en une sorte de mousse quantique, et puis des particules qu'on appelle virtuelles, parce qu'elles ont des temps de vie extrêmement courts, de 10 puissance moins 43 secondes, le temps de Planck, et donc elles apparaissent et disparaissent en des cycles de vie et de mort infinitésimalement courts.
Trix Antoine, allez, pour continuer cette définition du vide, Patrice demande en volume à quel pourcentage de l'univers correspondent la matière, l'antimatière et le vide ?
Oui, d'abord, nous vivons dans un univers matière. Donc, l'antimatière qui était en quantité égale aux premières fractions de seconde de l'univers, après quelques fractions de seconde, l'antimatière et la matière se sont annihilées pour devenir la lumière. Et en fait, il y a un milliardième de plus de partialité de la nature pour la matière
que
pour l'antimatière.
Et c'est pour ça que nous sommes là. Hein. Voilà, donc la matière a gagné contre l'antimatière.
Oui, mais un milliardième seulement. C'est-à-dire il y a un proton pour un milliard de photons, vous voyez, qui résulte de l'annihilation de matière-antimatière. Et nous sommes là parce que nous sommes...
Faits de matière.
Et que la nature a eu cette partialité d'un milliardième de plus pour la matière que pour l'antimatière. Ouais. Donc, de toute façon, les galaxies, les étoiles qu'on voit dans l'univers, c'est fait de matière, pas tellement d'antimatière. Et puis, l'autre, la fraction occupée par les, C'est très très petit. J'ai jamais fait le calcul, donc je peux pas vous donner le nombre exact. Mais vous voyez là, une galaxie, c'est seulement 100 000 années-lumière, et les galaxies sont assemblées dans des amas de galaxies, dont disons peut-être peut-être de taille de quelques millions d'années-lumière. Mais vous voyez
tout
la taille de l'univers.
C'est, ce que vous nous dites.
Toutes ces
galaxies, est aussi impressionnantes soient-elles, avec leurs milliards d'étoiles.
Elles occupent un très très petit très petit volume. Et donc c'est pourquoi on parle d'un vide intersidéral. Et d'ailleurs, vous voyez la l'atmosphère qui entoure, qui est notre fluide vital qui entoure la Terre par exemple, c'est presque toute la matière est concentrée la moitié de l'atmosphère est concentrée à moins de 5 km. C'est-à-dire, les astronautes, dans leur voyage vers la Lune, qui est donc 384 000 km, traversent beaucoup plus de matière pendant les 10 premiers kilomètres que pendant tout le reste de leur voyage.
Mais est-ce que justement l'antimatière, ce ne serait pas l'expression même du vide, Trinxen Tuan?
Non, je ne sais pas ce que vous dites par l'expression du vide, mais l'antimatière était là, et donc elle s'est annihilée avec la matière pour former les photons. Donc ce vide est rempli maintenant de photons et de particules de matière. Donc, rempli, c'est-à-dire dans les étoiles. C'est-à-dire si vous faites la moyenne de toute la matière dans l'univers, c'est seulement 5 atomes par mètre cube. Donc, vous prenez un mètre cube d'un volume, il y aura 5 atomes d'hydrogène, voyons. Et un atome d'hydrogène, c'est 10 puissance moins 8 centimètres, vous voyez. C'est très, très petit. Hein. Donc, en fait, c'est du presque vide tout le temps.
Allez,
c'est
on
le
se
vide
retrouve...
intersidéral.
Et on se retrouve dans un instant, Trinxen Tuan, pour poursuivre cette discussion et puis répondre aux messages des auditeurs sur ce grand vide, franceinter.fr. Et le mot-clé, l'attaque après, Agnès Obel et Familiar.
Oh,
et Trinh Sơn Thuân, notre invité cet après-midi dans la Tête au Carré pour ce livre « La plénitude du vide » chez Albin Michel. Trinh Sơn Thuân, en mathématiques, le vide a pris la forme du chiffre zéro. Vous y revenez longuement dans ce livre, et en particulier le zéro indien, extrait d'un petit conte mathématique proposé par Universcience.
Avec les Indiens, les chiffres prennent des positions. Mais quand la valeur d'une position est nulle, qu'est-ce qu'on fait ? La nature a horreur du vide, on le sait bien. Un soir de pleine lune, face à ce vide, ce blanc, ce rien, Brahmagupta s'interroge. Quand il n'y a rien, on ne met rien, logique, pourtant ce n'est pas rien. Il y a bien quelque chose, et ce quelque chose, justement, c'est rien. Ce rien montre qu'il n'y a pas de chose. On pourrait faire le tour de rien, l'air de rien, au moins... Il y aurait rien, mais ce serait borné. Voilà, le zéro est né.
Voilà, c'est l'astronome indien Brahmagupta, c'est son nom, qui au 5e siècle donc a inventé ce zéro aussi utile. Pour l'expression du vide, c'était vraiment le chiffre qui nous manquait.
Fait pour le calcul, vous voyez, parce que auparavant, bon, on a, par exemple la numérotation romaine, vous voyez, c'était très compliqué, donc faire des opérations comme l'addition, soustraction, multiplication, tout ça faisait c'était très compliqué pour l'homme de la rue de le faire. Donc avec le zéro, il y a donc la position, on peut indiquer exactement la position où il n'y a pas de dizaines ou de centaines ou de millièmes, par exemple. Vous voyez, et en fait, les Chinois l'avaient déjà fait manuellement avec les bouliers, par exemple. Donc, où la présence du zéro était quand il n'y avait pas de boule, vous voyez. Et donc ils pouvaient calculer. Et maintenant, donc, avec des chiffres où le zéro indique le manque, par exemple, d'une dizaine ou le manque d'une centaine, là, on peut maintenant soustraire, faire notre compte en banque, enfin, tout ça, c'est grâce au zéro que nous pouvons maintenant faire ces calculs de façon si facile.
Pourquoi le zéro a mis aussi longtemps à se faire accepter, justement?
Oui, mais parce que du zéro, de l'effroi du zéro en Occident, vous voyez, on pensait, les Grecs pensaient que le zéro, parce qu'il avait des propriétés très bizarres, amènera le désordre social, comme l'infini.
Il y avait cette peur du vide, vous pensez, derrière?
Oui, zéro. Tout à fait. Oui, moi je pense qu'il y avait vraiment une peur, un effroi métaphysique du vide qui ont empêché les Grecs donc, de penser au zéro.
Ouais. Cette question de Jérôme qui nous demande si le vide a de l'énergie, Trinh Sơn Thuân.
Oui, certainement. C'est ce qu'on a. On pense maintenant que dans les théories cosmologiques modernes, que l'univers est parti d'un vide rempli d'énergie, justement. Et c'est l'énergie, donc, qui, E égale MC2, vous voyez, qui va générer toute la matière. Et cette énergie se traduit, bon, sous ce qu'on appelle un champ de X, qui est associé donc à la particule, le boson de Higgs, qui vient d'être découvert il y a quelques années. Donc, ça a été une découverte très importante.
Qu'est-ce qui se passe dans ce champ de Higgs, alors?
Le champ de Higgs, oui, ce sont donc des champs d'énergie. Donc, comme vous savez, le champ électromagnétique est porté par les photons, par des particules de lumière. Bon, le champ de Higgs est associé au boson de Higgs. Et le boson de Higgs, donc ce champ de Higgs, agit comme une sorte de mélasse à travers laquelle les autres particules circulent, et donc ça donne de la masse. Vous voyez, le photon est la seule particule qui n'a aucune masse, et pourquoi elle peut se déplacer à la vitesse de lumière. Elle seule peut se déplacer à la vitesse de lumière. Toutes les autres particules sont arrêtées par cette sorte de mélasse qui est le champ de Higgs, donc, et donc acquiert de la masse. Et donc, le proton a une masse environ 2000 fois plus grand que la masse électron, par exemple. Vous voyez, donc, ce sont le spectre des masses qui est obtenu. Donc, le fait que nous nous pesons et que nous avons une masse, c'est grâce à ce champ de Higgs.
Ouais, mais on peut dire donc que le vide est rempli de toute cette énergie?
Oui, tout à fait, au début.
Donc, ça n'est pas rien, déjà. C'est une façon de définir le vide comme étant déjà une entité, quelque chose qui...
Oui, c'est pas rien. Non, justement, il faut pas penser le vide comme le néant, qui est des choses qui... Et la mécanique quantique nous dit qu'on peut pas aller à quelque chose qui ne contient exactement rien, parce que ça violerait ce qu'on appelle le principe d'incertitude de Heisenberg. Vous voyez,
et donc
vous aurez zéro énergie, zéro position, donc vous aurez l'énergie et le temps qui sera exactement défini, ce qui est impossible en mécanique quantique. Donc, si vous acceptez la mécanique quantique, vous ne mourrez jamais un vide parfaitement vide.
Donc, il faut bien faire la distinction entre le vide et le néant, justement.
Oui, hein.
C'est ce que vous rappelez abondamment.
Oui, c'est pas le vide, n'est pas le néant. Justement.
Ouais. Alors justement, la question du Big Bang, des origines, comment tout est parti dans notre univers, on va écouter justement l'extrait d'un documentaire où plusieurs voix, vous allez les reconnaître, s'expriment sur ces débuts au fond de l'univers.
Tout ce qui nous entoure et que nous pouvons voir autour de nous, dans les premiers instants de l'univers, était concentré dans un volume infiniment petit. Oh oui, c'était contenu dans une tête d'épingle. Oui, c'était tout petit.
Mais alors, comment imaginer l'infini de l'univers dans un si petit volume ?
S'il est infini, évidemment, il n'a jamais été petit. Si vous êtes infini un jour, vous l'êtes infini toujours. Vous ne passez pas du fini à l'infini comme ça.
Donc quand vous dites que l'univers était petit comme une tête d'épingle, et même moins que ça, vous imaginez une tête d'épingle dans un espace infini, je pense. En fait, il n'y avait pas d'espace infini. D'accord ? La tête d'épingle était petite, mais en fait, c'était l'univers.
Voilà, les voix de Sylvie Vauclair, Hubert Riz et à l'instant celle d'Étienne Klein, hein, que vous avez reconnu, Trinxantoine. Donc l'univers, il est né dans quoi ? Il est né dans du vide, dans du néant, dans quoi exactement ? Est-ce qu'on le sait ?
On ne le sait pas. Justement, on ne sait pas. Vous voyez, on peut extrapoler nos lois physiques en arrière jusqu'au temps de Planck, ce qu'on appelle donc 10 puissance moins 43 secondes. Hein, c'est quand même un temps très très petit. Mais au-delà,
on se heurte à
un mur de la connaissance qui s'appelle ce mur de Planck justement. Et donc on ne sait pas. Et parce que vous savez, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a deux théories physiques qui sous-jacent toute la physique contemporaine. Toutes les données au début du XXe siècle. Donc, la mécanique quantique qui définit l'infiniment petit et la relativité générale qui définit l'infiniment grand. Or, dans l'univers, c'est l'infiniment petit qui a généré, qui a accouché de l'infiniment grand. Mm-hmm. Donc, pour le comprendre, il faut unifier ces deux théories qui, je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, sont pour l'instant incompatibles parce que l'espace décrit dans la relativité est lisse, tandis que c'est une mousse quantique.
Mais on n'a pas réussi encore
à unifier tout ça. À faire une théorie synthétique qui s'appelle une théorie de gravité quantique. Mm-hmm. Donc, voilà. Donc,
ça, c'est la grande quête. C'est la grande quête de la physique moderne. Hein.
Exactement, c'est le Graal. Et donc, je ne peux pas répondre, ou personne ne peut répondre encore à votre question. Qu'est-ce qui s'est passé avant donc ce temps de Planck ?
Les questions sont posées. Toujours.
Les questions sont posées. Mais... Et donc, c'est ça qui fait le challenge pour le scientifique. Et il y a encore du mystère dans l'univers.
Ouais. Pierre demande, est-ce que les étoiles et les galaxies évoluent dans le vide ? Ça prolonge ce que vous nous disiez tout à l'heure.
Oui, bien sûr, ils évoluent parce que ce sont des écosystèmes. Les galaxies sont des écosystèmes en eux-mêmes. Donc, les galaxies sont composées de centaines de milliards de soleils. Et chaque soleil évolue en lui-même. Donc, il naît dans des pouponniers stellaires, et vivent leur vie comme le Soleil maintenant, en fusionnant, vous voyez, l'hydrogène en l'hélium et l'hélium en carbone, etc. Et donc, c'est comme ça que les étoiles brillent. Et puis, ils meurent. Le Soleil va devenir une naine blanche, par exemple, mais d'autres étoiles plus massives, comme 10 fois la masse du Soleil, va devenir des trous noirs, par exemple. Donc, il y a des cycles de vie et de mort, et donc tout évolue quand même dans ces écosystèmes de galaxies. Les étoiles, quand elles meurent, vont éjecter leur enveloppe enrichie d'éléments plus riches en métaux. Et donc, ces gaz vont s'effondrer de nouveau pour donner naissance à une nouvelle génération d'étoiles, et ainsi de suite. Vous voyez, ce sont des générations d'étoiles, et donc tout évolue dans ce vide intersidéral.
Trinxantoine, notre invité cet après-midi. On se retrouve dans un instant pour la partie spirituelle de votre ouvrage, après Julien Bert et Drôle de situation.
Je suis dans une drôle de situation, 40 de fièvre et de rage. Mais quand te dirais, tu sais, c'est du plomb dans l'air, une voix de garage. avec mon empire, si vite qu'il se tire, sans un sujet qui l'inspire. Avec mon nuage, ma bulle, mon visage, tu m'as rayé du passage. C'est pas une drôle de situation. 40 degrés, c'est pas bon. C'est presque final comme solution. Presque pas normal au fond. Avec mes médailles, en toc ma ferraille, tu m'as laissé sur la paille. Cette rancœur si dure, elle fait peur. Tu m'as laissé sans une fleur. Je t'ai suivi, petite horloge. À ton profil, j'accrochais. Voilà soudain qu'on me déloge de ton cou où je dormais.
Trinks and Twan, La plénitude du vide, donc ce livre qui paraît chez Albin Michel, avec une autre exploration, celle-là beaucoup plus spirituelle, hein, c'est l'autre partie de cet ouvrage. C'est vrai qu'à chaque fois dans vos livres, hein, d'ailleurs, vous nous emmenez sur ces voies de la spiritualité. Vous aimez d'ailleurs ça, hein, rapprocher les modes de connaissance de la science, oui, avec justement ces traditions spirituelles.
Oui, parce que je pense que le réel ultime est décrit de façon plus riche si on a d'autres, des fenêtres différentes pour regarder ce réel ultime. Mmh. Et la science en est une qui est très puissante avec sa méthode expérimentale. Mais il y a d'autres formes d'intuition, vous savez. Donc la spiritualité est une, mais la poésie, l'art aussi. Il y a d'autres formes d'accès à la connaissance. Mmh. Et je pense que chacun de ces formes d'accès enrichissent le réel ultime. Ouais.
Mais c'est vrai qu'on en parle à chaque fois que vous venez dans cette émission, mais c'est vrai que les scientifiques n'aiment pas beaucoup mélanger en tout cas la science et la religion,
oui,
la spiritualité.
Oui, mais je dis très fort que je fais jamais de concordisme. Pour moi, c'est plutôt une sorte de recherche de cohérence intellectuelle. Moi, je me dis que si deux systèmes cohérents et logiques, de pensée logique, prétendent décrire le même réel, il doit se rencontrer quelque part. Sinon, soit l'un est faux, soit les deux sont faux.
Mmh. Anne demande, quel est pour vous, Trinks and Twan, l'objectif de la quête du vide? Alors, on peut se placer sur deux plans, celui de l'astrophysicien et celui de l'homme spirituel. Hein.
Oui, c'est plutôt probablement l'homme spirituel dont je veux parler. Donc, le vide, c'est d'abord le vide de violents sentiments en moi. Vous voyez, être serein,
quand on
se débarrasser
du vide, par exemple,
ça, oui, c'est ça,
c'est un vrai sens pour vous.
Oui, oui, bien sûr, c'est la méditation bouddhiste, bien sûr. Donc, essayer de s'affranchir donc des sentiments qui vous bouleversent, qui sont comme un torrent violent, etc. Mais avoir une rivière tranquille, vous voyez, et je pense que ça, bien sûr, ça aide dans mon travail scientifique aussi. Donc voilà, et puis bon, le vide aussi, c'est le vide bouddhiste qui traduit donc le sentiment de l'interdépendance, parce que toutes les choses sont vides en elles-mêmes parce qu'elles dépendent toujours d'autres choses. Vous voyez, quand je vois cette table, je dois penser à l'arbre qui l'a produit, le soleil, la pluie qui ont nourri l'arbre, le charpentier qui a fait cette table, etc., le boulanger qui a nourri le charpentier. Donc c'est une suite infinie. Donc on peut jamais décrire les choses par elles-mêmes, elles sont toujours interdépendantes. C'est l'interdépendance qui est très importante pour moi, et donc ça doit amener donc ce sentiment de compassion, donc d'interdépendance avec tous les autres.
Et alors quand même, du point de vue de la science et de l'astrophysique, la quête du vide, ça pourrait avoir quel intérêt dans ces domaines?
Bon, les propriétés du vide dont je vous ai parlé.
Ce serait donc, c'est l'origine. Les origines.
Oui, les origines de l'univers. Donc, c'est primordial, moi, je dirais, pour comprendre ce champ de Higgs, pourquoi le faux, ce qu'on appelle un faux vide, qui est devenu un vrai vide, a provoqué cette inflation de l'univers dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le vide a beaucoup de questions scientifiques. Ouais.
Est-ce que vous pensez qu'on est justement sur le point d'obtenir ces réponses très vite, ou est-ce qu'au contraire, on aura besoin de siècles peut-être pour un jour avoir un bon scénario sur les débuts.
C'est, vous savez, cette quête de cette théorie de gravité quantique dont on parlait tout à l'heure, a commencé avec Einstein, bien sûr, les années 50. Maintenant, on est, bon, c'est plus de 50 ans plus tard. On n'est pas plus proche, je dirais. Il y a la théorie de cordes, mais elle semble être une théorie plus mathématique que physique. Et donc, je sais pas, peut-être un nouvel Einstein, vous voyez, va arriver et va nous donner cette théorie de gravité quantique.
Ouais, on l'attend alors, donc. Hein. Ouais. Dans les traditions orientales, le vide a une place très différente de celle qu'on lui accorde dans notre histoire occidentale.
Oui. Non, mais c'est on embrasse le vide et même dans le taoïsme, on a besoin de ce vide pour que la nature s'exprime. Vous voyez, donc le Tao. Le Tao du vide, c'est vraiment l'origine de tout. C'est l'origine de l'univers, l'origine de la matière et bon, l'origine de notre vie.
Oui. Ce que vous représentez, enfin ce qu'on représente dans le yin et le yang, il y a cette idée du vide aussi et du plein qui sont complémentaires.
C'est seulement dans le vide que le yin et le yang, en Orient, on pense que c'est l'interaction de ces deux forces polaires qui fabriquent le monde. Donc c'est seulement à travers le vide qu'on appelle le vide médian, que le yin et le yang arrivent à s'exprimer et donc à produire l'univers dans lequel nous vivons.
Dans le bouddhisme, donc, ça a une place tout à fait particulière, hein,
oui,
quand on parle de vacuité.
Oui, voilà, donc la vacuité dont je voulais parler tout à l'heure. Les choses ne sont pas indépendantes par elles-mêmes. Elles sont vides dans ce sens, vous voyez. Elles ne peuvent pas être par elles-mêmes. Elles sont toujours interdépendantes de milliers d'autres facteurs.
Mmh. Et Niels Bohr, alors vous racontez cette histoire Niels Bohr avec les Chinois.
Oui. Donc Niels Bohr, ça c'est l'aspect complémentaire justement du yin et du yang, vous voyez. Lui, il a été très surpris donc de l'interprétation donc de la lumière, parce que la lumière peut s'expliquer à la fois par sa nature ondulatoire, mais aussi une nature corpusculaire. Il faut les deux pour comprendre toutes les propriétés de la lumière. Et en Occident, vous voyez, c'est soit l'un, soit l'autre, et on peut pas avoir les deux en même temps. Parce que, une chose est à la fois les deux choses, qu'est-ce qu'elle est vraiment? Donc, vous voyez, on revoit la nature vide dont le bouddhisme parlait, parce que les choses sont interdépendante de l'observateur. Dans la mécanique quantique, c'est quand on fait l'expérience que l'onde se réduit à une particule, et quand on l'observe pas, vous voyez, l'onde reste onde. Donc, vous voyez, il y a l'interdépendance entre l'observateur et le réel observé.
Ouais. Et Niels Bohr, alors, son intérêt pour le yin et le yang.
Dit que pour décrire la matière, il faut son fameux principe de complémentarité. Donc, les deux sont complémentaires. Ils s'excluent pas l'un l'autre, comme le yin et le yang ne s'expliquent pas l'un l'autre. Donc, quand il a été anobli par le roi du Danemark, il a adopté pour blason donc le symbole du yin et yang.
Ouais. Au fond, est-ce que c'est une belle image aussi pour cette quête de l'unification, en tout cas des grandes théories de la physique? C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer qu'effectivement la mécanique quantique et la relativité générale un jour arrivent enfin à s'imbriquer parfaitement
s'imbriquer, oui, et s'unifier
pour proposer
une grande théorie. Je pense que c'est une très belle image de l'ultime unification, la théorie du tout, comme on l'appelle en physique.
C'est ça. Donc là, on est sur le chemin, mais on a encore une longue route à semer.
Voilà.
Peut-être en faisant le vide en soi, on ira plus vite sur le chemin de la réponse, Trix Antoine.
Il faudra quand même avoir le génie d'un Einstein, je pense.
Ouais. Galilée, pour terminer, un petit mot sur... C'est vraiment le passage de la science du vide dans cette grande chronologie de l'histoire.
Oui, que le vide prend une dimension expérimentale.
Ouais. C'est ce que vous nous expliquiez tout à l'heure.
Oui, c'est ça. Et donc, Galilée, bien sûr, est le père de la méthode expérimentale en science. Et donc, il a, par exemple... pensé déjà qu'il y a... que c'est la pression qui... qui fait monter, par exemple, le mercure dans un, ouais. dans un tube à éprouvette et que ce qui reste au-dessus, c'est le vide. Donc, on peut créer un vide expérimental. Donc, c'est lui qui a le premier donc, mis le vide sur un plan expérimental, et ce qui est essentiel en science parce que l'expérience est la base de tout.
Voilà, c'est ce que vous nous racontez donc dans ce livre « La plénitude du vide » qui vient de paraître chez Albin Michel. Trinh Saint-Ouen, merci beaucoup d'être passé par la tête au carré, comme vous le faites à chaque fois que vous venez en France. Et bon retour donc aux États-Unis.
Merci de m'avoir invité.
À bientôt.
La chronique de Pierre Barthélémy, en partenariat avec le supplément « Science et médecine du monde ».
Bonjour Monsieur Barthélémy.
Bonjour Monsieur Vidard.
Et vous nous parlez de Superman aujourd'hui ?
Oui, et de quelque chose qui m'énerve beaucoup. Rappelez-vous le film Superman de 78 où Christopher Reeve interprétait le super-héros à slip rouge taille haute. Oui. Cette nunuche de Lois Lane était incapable de reconnaître Superman en Clark Kent, son collègue journaliste. On avait beau lui crier à travers l'écran.
C'est vrai, c'est vrai.
Regarde, ça crève les yeux, c'est le même bonhomme, rien à faire, elle ne voyait rien. Ouais. Alors bien sûr, Christopher Reeve était un bon acteur. Il modifiait son apparence quand il jouait Clark Kent, un costume fadasse, une silhouette voûtée, une voix au perché, aucune assurance. Mais cela n'expliquait pas cet aveuglement. D'où la question, comment fait Clark Kent pour ne pas être percé à jour ?
La question.
Et, oui. Et si tout était dans ses lunettes, c'est l'idée que viennent de tester deux psychologues britanniques. Les yeux sont, on le sait, un élément important pour la reconnaissance. Toute altération de cette zone du visage réduit la performance dans ce domaine. Et le truc est connu des vedettes qui se cachent derrière des lunettes noires quand elles vont acheter du papier toilette au supermarché. Mais est-ce que le stratagème fonctionne aussi quand on porte des verres transparents comme Clark Kent ?
Et évidemment, il y a une expérience improbable là-dessous, Pierre.
Exactement. Mmh. Ces chercheurs ont sélectionné pour 48 modèles, 6 photos. Deux avec lunettes, deux sans et deux clichés de doublure, c'est-à-dire des personnes avec un visage ressemblant. Puis ils ont effectué toutes les combinaisons possibles. Le modèle deux fois avec des lunettes, deux fois sans, une fois sans, avec un sosie binoclard ou avec un sosie à lunettes, sans lunettes. Ces paires de photos ont ensuite été soumises à quelques dizaines de cobayes qui devaient dire s'ils voyaient ou non la même personne sur les deux clichés. Résultat, les participants arrivaient bien à reconnaître les modèles quand ils avaient des lunettes sur les deux photos ou quand ils étaient visage nu sur les deux photos, mais ils avaient plus de mal avec la combinaison lunettes. Pas de lunettes.
Ah donc, il y a un effet Clark Kent, finalement, non ?
Oui, mais l'étude ajoute qu'il est assez faible. Si les habitants de Métropolis n'arrivent pas à reconnaître Superman, c'est sans doute qu'il y a autre chose. Alors, on a autrefois émis l'hypothèse que les verres de ses lunettes, faits d'un matériau issu de la planète Krypton, donnaient au regard du super-héros une sorte de pouvoir hypnotique.
Ouais. Ouais.
Si vous voulez mon avis, la raison principale à cet aveuglement collectif tient sans doute au fait que, contrairement à Zorro, Batman, Spider-Man, Superman, lui, agit à visage découvert. Il n'est pas démasqué, simplement parce qu'il porte pas de masque. Et personne n'irait imaginer qu'il a besoin de travailler comme journaliste pour payer ses factures et ses grands slips.
C'est parce que vous êtes jaloux. On retrouve cette chronique dans le supplément Science et Médecine du Monde qui sort aujourd'hui, Pierre Barthélémy. Quoi d'autre au menu du supplément ?
Alors cette semaine, le grand dossier est consacré aux patients experts, ces malades qui bousculent l'approche médicale en partageant leur expertise sur les maladies chroniques dont ils souffrent.
Et c'est donc Le Monde cet après-midi dans les kiosques. Merci Pierre Barthélémy et à mardi prochain. Fabrice Drouel est arrivé dans ce studio. Bonjour Fabrice.
Bonjour Mathieu.
Affaires sensibles, thème aujourd'hui.
Le conflit Mitterrand-Rocard sur plus de 20 ans. Et nous en parlerons avec Michel Vinocq, historien biographe qui a consacré à François Mitterrand une biographie intitulée tout simplement Mitterrand.
Eh bien, à tout à l'heure.